Les conférences du Collège de France.
C'est le deuxième cours que je vais vous donner et je vais faire une petite récapitulation de ce dont j'ai parlé la semaine dernière. Et donc, en fait, tout ça est un peu centré autour de la notion de temps. Temps, bien sûr, c'est quelque chose de très important. Et en fait, Denis a eu récemment un cours sur le temps pendant le développement. Je vais être un petit peu plus précis. Et en fait, ce dont je vais vous parler, c'est aussi la corrélation entre le temps absolu et aussi le temps qui peut être mesuré par les divisions cellulaires, qui sont bien sûr des choses qui sont vraiment régulières et qui arrivent à des espaces bien déterminés. Donc, pour reprendre ce dont je vous ai parlé la semaine dernière, c'est au sujet de la manière dont on peut diversifier les neurones. Les neurones, en fait, appartiennent à de très grands types de neurones, en fonction de leur forme, en fonction de leur transcriptome, en fonction de leur activité neuronale, électrique. Et donc, comment arrive-t-on à reproduire tous ces neurones, et dont le nombre chez l'homme est un petit peu inconnu, de l'ordre de quelques dizaines de milliers sûrement. On ne sait pas trop exactement, même si le Allen Institute à Seattle fait des single-cell sequencing avec des millions et des millions de cellules, on ne sait toujours pas combien de types cellulaires on a chez l'homme. Je vais vous parler, concentrer mon attention sur en fait ce que l'on fait chez la drosophile, dans le cerveau de la drosophile, qui a un cerveau qui est quand même assez complexe, arriver à faire des choses qu'on n'arrive pas à faire, voler à grande vitesse de façon acrobatique. Donc il y a intérêt à savoir où est-ce qu'on va, donc avoir un très bon système visuel. Et ça, ce que vous avez en fait, c'est un transcriptome de cellules, single cell sequencing, on va utiliser ça, c'est plus simple, d'accord, de tous les neurones qui composent en fait le lobe optique de la drosophile. Et vous voyez qu'il y a à peu près 250 neurones qui sont en fait très différents les uns des autres au niveau transcriptionnel et qui aussi sont en stoichiométrie de façon différente dans la mesure des neurones qui sont très peu abondants, donc ils sont beaucoup plus abondants. Et donc on a passé pas mal de temps à parler par exemple de ces T4, T5 qui sont des neurones impliqués dans la notion du mouvement. Donc la question, c'est, sans parler de diversité, c'est comment on arrive à créer cette diversité. Et conceptuellement, on peut remonter il y a une trentaine d'années au travail en particulier de Tom Jessel et plus récemment de James Briscoe, qui en fait ont concentré leur attention avant tout sur la notion de patterning au niveau spécial. Ça veut dire qu'en fait, dans la moelle épinière, donc la partie dorsale, la partie ventrale, vous avez dans la partie ventrale un gradient de Sonic Hedgehog qui va en fait diffuser, et dans ce gradient, qui est un morphogène, vous allez avoir différents types de neurones qui se produisent, des motoneurones, des neurones interneurones, et éventuellement, en fonction de la crête neurale, vous allez avoir les neurones sensoriels. Donc l'espace est très, très important. Et en fait, ce modèle a été très influentiel dans la mesure où, en fait, on arrive à le comprendre de façon moléculaire, de façon très bien. On sait très bien comment les gradients morphogénétiques fonctionnent. Et donc, je pense que Tom Jessel est aussi un très, très bon parleur. Et donc, parleur, c'est peut-être pas le bon mot, mais enfin bon. ça a été très influentiel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a un petit peu rendu plus obscur le fait que d'autres choses aussi sont importantes pour la formation des neurones, et en particulier la notion de temps. La notion de temps, c'est très important dans la mesure où, par exemple, au niveau du cortex humain ou de souris, on sait que les 6 couches du cortex humain sont produites par des cellules souches qui produisent en fait les différentes couches du cortex de façon temporelle. C'est-à-dire d'abord la couche 6, ensuite la couche 5, la couche 4, la couche 3, la couche 2. Donc on sait que le temps est important dans ce cas-là, puisqu'ils n'arrivent pas du tout au même moment, mais on n'apprend aucune idée de comment en fait ce temps est compté, comment est-ce que les précurseurs, les cellules souches, arrivent à décider de produire un neurone de la couche 5 ou de la couche 4 ou de la couche 3. Donc comment est-ce que le temps est lu au niveau de la cellule. Donc on a concentré notre attention sur le lobe optique et en particulier cette structure du lobe optique qui s'appelle la médulla, qui est en fait une structure qui est très simple, c'est très compliqué d'un certain côté, aussi très simple, de la mesure où vous avez à peu près 40 000 neurones, qui est un nombre quand même important, mais ces 40 000 neurones sont en fait répartis dans 800 colonnes, c'est-à-dire 800 colonnes qui représentent les 800 pixels que l'œil de drosophile arrive à capturer. Donc en fait, vous avez 800 circuits qui sont en parallèle les uns avec les autres. Et en fait, ces circuits sont composés de 100 types cellulaires. C'est-à-dire que, en fait, chaque colonne est entourée de à peu près 100 types de neurones différents. Au maximum, il y a un neurone par colonne. Des fois, il y a un neurone pour 5 colonnes, mais chaque colonne est innervée par au moins 100 types cellulaires. Donc, comment arrive-t-on à produire ces 100 types cellulaires de façon répétitive, puisqu'en fait, on arrive à faire ça 800 fois au cours dans l'espace visuel de la drosophile. Okay. Donc, en fait, ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, ce système provenait d'un, comme beaucoup de systèmes neuronaux, d'un neuroépithélium qui est en rouge ici, ou rose ici, et c'est qui a la forme d'un croissant, d'accord ? Et à la partie extérieure de ce croissant, il va y avoir une transformation. Ce n'est pas une délamination, c'est une transformation dans le plan d'épithélium de cellules épithéliales en cellules souches nerveuses, donc on appelle des neuroblastes. Je vais utiliser le mot neuroblastes pour qu'en fait des cellules souches nerveuses. Okay. Et donc ce que vous avez en fait ici, c'est que le neuroépithélium va être dévoré lentement au cours de 3 jours environ par la transformation de cette cellule neuroépithéliale en cellules en neuroblastes. Et donc, ces neuroblastes, à la fin, on va avoir un certain nombre. Et je crois que j'avais dit la dernière fois qu'il y en avait à peu près autour de 800. Vous allez voir que ce n'est pas exactement correct. Mais donc, 800. Et vous vous rappelez que 800, c'était en fait ce qu'on avait vu ici. En fait, il y a 800 colonnes ici. Donc, l'idée, ce serait par exemple, chaque neuroblast pourrait produire les 100 neurones qui innervent chacune des colonnes. C'est un petit peu difficile d'imaginer, dans la mesure où est-ce qu'une cellule souche arrive à produire 100 neurones différents, est peut-être difficile à accepter, mais vous allez voir qu'on n'est pas trop loin de la réalité. Okay. Donc vous allez avoir cette progression, et au bout de 3 jours, toute la partie rose va être transportée en vert, tout va être transformé en neuroblastes, et ces neuroblastes vont produire ces différents types de neurones dont je vous parlais il y a quelques secondes. Okay. Donc en fait, si on fait une section à travers cette neuroépithélium, donc ces cellules carrées qui sont vraiment adhésives, etc., vont petit à petit être transformées de la partie externe en neuroblastes, qui vont être ronds, et donc des grosses cellules, qui vont commencer à se diviser. Ce sont des cellules souches. Ces cellules souches se divisent en se régénérant elles-mêmes. Donc elles vont se diviser, produire cette cellule orange, qui est un précurseur intermédiaire, qui va se diviser une fois de plus pour donner 2 neurones, avec notch on, notch off. Okay. Et donc ces 2 neurones vont être nés. Et puis, 1 heure ou 2 après, la prochaine cellule épithéliale va être transformée en neuroblaste, qui va aussi donner 2 neurones, etc., 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 etc. Et donc, ce que vous avez, c'est que vous avez ici des neurones, des cellules neuronales, des neuroblastes qui sont jeunes, qui viennent juste d'être nés, qui viennent juste de produire des neurones. Et là, vous avez des neuroblastes beaucoup plus anciens qui ont eu le temps de produire beaucoup de neurones. Et si vous attendez un petit peu plus longtemps, un jour ou deux, en fait, tous les neuroblastes verts vont être transformés en vieux neuroblastes et vont avoir produit toute une série de neurones qui va de là-dessus. Donc l'idée, c'est qu'en fait, tous ces neurones jaunes ici vont être tous différents les uns des autres. Ils vont pouvoir être représentés tous ces 100 types neuronaux que l'on a dont on a besoin pour innerver chacune des colonnes de la médulla. Okay. Et donc, ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, le temps est important ici, puisque alors qu'un neurone se divise, il va entrer une série, exprimer une série de facteurs de transcription, en commençant par homothorax. Ensuite, il va éteindre le homothorax, activer IRM, ILS, homeobrain, stobiper, dlaki, teles. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une transition d'un facteur de transcription. La même cellule neuroblast va transformer de ce facteur de transcription à IRM, ILS, etc., etc. Donc, en fait, au cours du temps, la progression va se progresser. Et chaque fois que, en fait, le neurone se divise, par exemple, au niveau, lorsqu'il exprime le facteur de transcription homeobrain, il va produire un neurone qui est différent de ceux qu'il va produire lorsqu'il va exprimer dakit D ici, d'accord ? Donc en fait, l'idée c'est que la diversité neuronale est produite par une cellule souche, par ce neuroblast, qui va progresser au cours du temps, il va produire différents types de neurones. Okay ? En fait, ce concept est assez vieux, et mon ami Chris Doe, dans l'Oregon, a en fait trouvé en fait la même chose il y a une vingtaine d'années, où il a en fait démontré que dans la corde nervale ventrale de la drosophile, il y a aussi des neuroblastes qui pouvaient entrer dans une situation similaire à celle-là. La seule différence, c'est qu'il y a une série beaucoup plus courte, et aussi les facteurs de transcription sont complètement différents de ce qu'on a ici. Donc un concept qui lui-même reste, mais les mécanismes eux-mêmes sont tout à fait différents. D'accord ? Donc ici, ce que vous avez, c'est une image de ce même neuroépithélium qui reste ici. Donc, c'est les restes du neuroépithélium en gris ici. Et tout cela en couleur, ce sont les neuroblastes. Et ça, c'est les neuroblastes qui viennent juste d'être transformés. Et donc qui s'exprime au thorax. Ça, un peu plus vieux, ALS, ensuite Stovipede, ensuite Dacite. Et si j'avais assez de couleurs dans mon microscope, on aura encore une autre, ou deux ou trois autres couleurs qui vont s'ajouter ici. Donc vous voyez ce qui est très bien, c'est que, en fait, cette progression existe, et qu'en fait, ces neurones, ces jeunes neurones, ils vont vieillir, ils vont devenir bleus, ils vont devenir verts, ils vont devenir rouges. Et de la même manière, les rouges étaient à une époque un peu roses, et donc produisaient les neurones qui se produisaient lors de cette transcription. D'accord ? Donc ça, c'est là où on a été resté. Et donc, on pensait en fait qu'il y avait à peu près 800 neuroblastes. Okay. Et c'est un petit peu difficile à compter parce qu'en fait, les plus vieux neuroblastes sont éliminés avant que les plus jeunes arrivent. Donc, il est un petit peu difficile de compter, de savoir exactement combien de neuroblastes on avait. Okay. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous avez un neuroblast qui va exprimer une série de facteurs de transcription. Et on pense qu'en fait, l'idée, c'est simplement un réseau transcriptionnel très simple où en fait, homothorax active ALS, ALS active stovipede, stovipede active Dacite. Et en fait, le facteur X, par exemple ici stovipede, va activer X plus 1 Dacite et va réprimer X moins 1 ALS. Ça veut dire que si vous enlevez par exemple le stovipede, les cellules vont continuer à se diviser, mais elles vont rester coincées à ALS et ne vont jamais progresser à Dacite parce qu'il n'y a pas le facteur qui peut les activer. Donc un système purement transcriptionnel, un réseau transcriptionnel où A active B, B active C, C active D et réprime le précédent. Donc un système très simple qui permet, de progresser et de pouvoir produire différents types de neurones au cours du temps. Okay. Donc en fait, l'idée qu'on a maintenant, c'est qu'en regardant un petit peu de plus près, on a en fait trouvé un peu plus de facteurs de transcription temporels, comme je vous ai défini. Et donc, en fait, on peut arriver à définir 12 fenêtres temporelles, d'accord, qui vont en fait ne pas être un facteur de transcription, mais plus ou moins, parce que si vous avez A activé B, B activé C, C réprime B, vous allez avoir chevauchement entre A et B ou B et C. Donc en fait, vous avez une combinaison qui fait qu'en fait, vous avez ces à peu près 12 fenêtres temporelles. Et dans ces 12 fenêtres temporelles, vous allez arriver à produire à chaque fois un neurone, en fait deux neurones, parce que vous avez ce précurseur intermédiaire, un neurone qui va être notch on, un neurone qui va être notch off. Okay, et notch on, notch off, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement différentes. Le fait d'exprimer notch ou de ne pas exprimer notch vraiment fait des neurones extrêmement différents les uns des autres. D'accord ? Donc si vous avez 12 fenêtres temporelles, et chacune produit deux neurones, vous arrivez déjà à produire 24 neurones. On n'est pas à 100, mais on n'est pas loin de 100, et on va arriver à voir comment on arrive. D'accord ? Donc 24 neurones. Et en fait, comme je vous le disais, notch on et notch off sont vraiment très différents les uns des autres. En fait, les notch on, ce sont des neurones excitateurs, alors que les notch off sont des neurones inhibiteurs. Donc, on va y revenir là-dessus plus tard. Donc, c'est quelque chose vraiment des neurones vraiment très, très différents. Et les neurones inhibiteurs sont soit glutamatergiques, chez la drosophile, dans le lobe optique, le glutamate est avant tout un inhibiteur d'activité neuronale et GABA. Et par contre, les neurones excitateurs expriment l'acétylcholine. Okay. Donc, ça, c'est là où on se situe. Donc, 24, c'est pas assez. Il faut essayer d'augmenter un petit peu la diversité neuronale. Et ça se fait simplement en fonction de où ces neuroblastes sont nés. Donc, vous avez après, c'est ce que j'ai, 800 neuroblastes. Ils vont tous aller dans la même série de facteurs de transcription temporels, mais ils vont provenir de domaines différents dans la mesure où, en fait, ce domaine-là exprime OpTix, ce domaine-là exprime VSX, ce domaine-là exprime DBP et Wingless, dorsal ou ventral. Donc, vous avez, en fait, différents domaines, et en fonction du domaine d'où proviennent ces neuroblastes, ils vont soit être produit le même neurone partout, soit, s'ils proviennent d'un domaine plus restreint, ils vont produire des neurones différents. Donc, la même lecture de cette série de facteurs de transcription va pouvoir donner lieu à des neurones différents s'ils proviennent de domaines spéciaux différents. Donc, l'espace est aussi important, mais toujours la même série de facteurs de transcription temporels qui va donner l'idée. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ces facteurs temporels vont dire « je produis un neurone, mais je me rappelle que je viens de ce domaine optique, ce domaine VSEC, donc je vais donner un nom différent ». Certains des neurones ignorent cette information puisqu'ils font les produire partout. C'est ceux qui vont être en stoichiométrie élevée. Et c'est en fait, en général, les neurones on, notch on. Okay. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment régler la stoichiométrie de façon très précise en fonction de la taille du domaine d'où ces neuroblastes sont nés. D'accord ? Donc, les conclusions que j'avais, à laquelle j'étais arrivé la semaine dernière, c'est qu'en fait, il y a vraiment un système tout à fait déterministe qui va produire ces neurones et en fonction d'une spécification temporelle, donc cette série de facteurs de transcription qui sont les uns après les autres, qui sont modifiés par une détermination spatiale, et en plus, vous pouvez doubler le nombre de neurones simplement avec notch on ou notch off. Okay. Donc la question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce que ce déterminisme est en fait suffisant, ou est-ce qu'il y a une composante stochastique que nous n'avons pas réussi à déterminer jusqu'à présent. Et l'autre question qu'on pouvait se poser, c'est qu'en fait, est-ce que ce modèle déterministe s'applique aussi chez les mammifères ? Et vous allez voir qu'en fait, il y a des petits problèmes pour adapter directement ce dont je vous ai parlé au niveau des mammifères, et en particulier au niveau de la vitesse du cycle cellulaire. Donc on sait que la détermination spatiale est importante. Je vous ai montré d'exemples avec Sonic Hedgehog. Et on sait aussi qu'il y a une composante temporelle, par exemple les couches du cerveau 6, 5, 4, 3, 2, mais on ne sait pas comment en fait les deux sont intégrés et comment on arrive à créer cette diversité énorme qui est beaucoup plus grande que ce qu'on a chez la mouche, qui est en fait la diversité qu'on trouve dans les différentes parties du cerveau. Le problème est venu lorsque nous avons commencé à compter plus précisément le nombre de neuroblastes qu'il y avait dans le cerveau. Et je vous ai dit qu'il y en avait 800, un par colonne. En fait, en comptant de façon plus précise, vous avez ici un stade précoce où en fait la partie bleue, c'est le neuroépithélium, et le neuroépithélium a commencé à se transformer en neuroblastes en jaune qui sont à la périphérie. Et en fait, le premier neurone qui sont produits dans la partie la fenêtre temporelle la plus précoce, c'est un neurone qu'on appelle MI1, okay, qui est produit très tôt. Et en fait, ce que vous apercevez tout de suite, c'est qu'en fait, il semble qu'il y ait moins de neurones MI1 que de neuroblastes. Ce qui est un petit peu surprenant, parce qu'en fait, chaque neuroblast devrait produire un MI1, puisqu'on sait qu'un MI1 est produit par tous les neuroblastes. D'accord ? Et plus tard, au cours du développement, le système reste là aussi. On a en fait beaucoup plus de neuroblastes qu'il n'y a de MI1 qui sont produits. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, si on compte précisément le nombre de neuroblastes qui existent, ce n'est pas 800, c'est au moins autour de 2000. Donc là, ça devient un petit peu un problème, parce que 2000, ça voudrait dire que si chaque neuroblast passait par l'intermédiaire de tous ces facteurs de transcription temporelle, on devrait avoir 2000 neurones qui ignorent les instructions spatiales, 2000 neurones de chacune des fenêtres temporelles. Ce qu'on ne trouve pas, le maximum, c'est 800. Donc, quel peut être le problème, quelle peut être l'explication ? En fait, en y réfléchissant de plus près, on s'aperçoit que là, ce modèle que vous avez ici, c'est que vous avez chaque fois une fenêtre temporelle, et l'idée, c'est qu'en fait, à chaque fenêtre temporelle, vous allez avoir un cycle cellulaire, une division, qui va produire, par exemple, la première division, un neurone MI1 et sa sœur, un neurone TM1 et sa sœur, un TM4 et sa sœur, etc., etc. Or, si on y pense, il n'y a aucune raison pour qu'en fait, le cycle cellulaire soit synchronisé avec ce réseau de transcriptionnel qui fait A active B, B active C, C active D. Le cycle cellulaire dépend uniquement de la phase de croissance en G2 des neuroblastes qui, lorsqu'ils divisent, vont perdre du poids pour donner lieu à un neurone, mais il faut qu'ils regagnent du poids pour ne pas diminuer de taille. Donc ils vont regrandir, ils vont pouvoir se diviser lorsqu'ils atteignent une taille critique, pouvoir se diviser. Et en fait, ce qu'on a pensé, c'est qu'en fait, peut-être qu'en fait, le cycle cellulaire n'était pas synchronisé avec les fenêtres temporelles, qui semblaient peut-être être logiques. Et en fait, la progression temporelle des facteurs de transcription est en fait plus rapide que le cycle cellulaire. Donc en fait, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, chaque fenêtre temporelle existe. Chaque neuroblast va passer à travers ces 12 fenêtres temporelles, mais chacune de ces fenêtres temporelles ne va pas être touchée par une division cellulaire. Donc, il ne va rien se produire, tout simplement. Donc, il va se passer quelque chose comme ça, que par exemple, ici, vous avez une cycle cellulaire qui va toucher la fenêtre temporelle qui va donner un neurone MI1, mais pas celui qui va donner celui qui est là-dedans, c'est TM1, ou bien alors... Donc, si vous voulez, chacune des fenêtres ne va pas donner lieu à chaque fois à un neurone. Donc, ça veut dire que certains neuroblastes vont donner ce type de situation, d'autres vont donner un autre type de situation, un autre type de situation. Donc, ça veut dire que globalement, tous les neurones sont produits, mais tous les neuroblastes ne vont pas donner tous les neurones qu'ils pouvaient produire. Donc, ils ont le potentiel de produire tous les neurones, mais uniquement un sous-ensemble de ces neuroblastes vont donner chacun leur petit nombre de neurones. Et donc, si on met ça ensemble, au niveau global, on va réussir à avoir complètement le nombre de neurones exact, mais que les 2000 neuroblastes qui se divisent, ils vont réussir à donner 800, parce qu'en fait, il n'y a qu'un sur 2 ou 2,5 qui va se diviser pour donner, par exemple, le neurone MI1. Okay ? Donc ça, c'est un modèle qui est intéressant, mais est-ce qu'on peut tester ce modèle ? D'accord ? Donc, c'est là qu'on a essayé de regarder ce qui se passe, et de regarder de façon temporelle au lignage de ces neuroblastes. Est-ce qu'on peut arriver à déterminer quelles sont les cellules, les neurones qui sont nés à partir d'un neuroblast donné. Je vais revenir plus en détail sur la notion de lignage et comment on arrive à mesurer ces lignages, mais ce que vous avez ici, c'est une image qui vous donne, en fait, en vert, des groupes, des grappes de neurones qui sont tous, en fait, la progéniture d'un neuroblaste. Donc, en fait, le neuroblaste est ici, il est au sommet, il a produit tous ses neurones, ça, c'était le plus vieux, et il est là, d'accord? Et donc, ça, c'est un neuroblaste, un autre neuroblaste. C'est beaucoup, beaucoup trop dense pour arriver à examiner trop en détail, donc on peut faire la même chose, mais je vais vous expliquer comment on fait ça, mais on peut faire la même chose de façon beaucoup plus... moins dense, okay. Donc l'idée c'est qu'en fait, si en fait le potentiel, ce serait que chaque neuroblaste est capable de donner d'abord un neurone MI1, ensuite un neurone TM1, TM4, T1, TM4, d'autres neurones TM2, TM6 dans la partie notch on et dans la partie notch off que j'ignore pour l'instant. Simplement, il y avait un notch, je vais y revenir plus tard, un neurone qui s'appelle DM8 qui va être en fait donné notch off à ce niveau-là, d'accord? Donc, en fait, ce qu'il faut essayer d'arriver à mesurer ça, donc ce qu'on va faire, c'est, pour des questions techniques, essayer d'identifier les neurones. Et donc, pour identifier ces neurones, on sait que les neurones TM1 et TM4 expriment un facteur de transcription qui s'appelle TFAP2, et que MI1 exprime BSH. Et TFAP2 est exprimé aussi un peu plus tard pour les neurones TM2 et TM6, d'accord? Donc, on a un seul marqueur TFAP2 et BSH, et bien sûr, la GFP qui permet de montrer qu'en fait, tout le clone, en fait, on ne s'intéresse qu'aux neurones qui sont notch plus, pour essayer de simplifier les choses. Et on va essayer de voir un petit peu dans quelle manière est-ce que chaque neuroblaste va produire un effet BSH, TM1, TM4, 3 neurones, TM2, TM6, etc. Okay? Donc ici, ce que vous avez, c'est le marquage avec TFAP2, et vous avez en fait, comme je vous le disais, en fait, deux bandes de TFAP2 qu'on peut illustrer comme ça, c'est des fausses couleurs, mais enfin on voit bien. Donc c'est le même facteur de transcription à deux temps différents. Donc ça c'est les neuroblastes, les neurones qui sont produits au début, ça c'est les neurones qui sont produits un peu plus tard. Et vous pouvez voir donc que c'est les deux premiers. La première bande va produire TM1 et TM4, et la deuxième bande va produire TM2 et TM6. Okay? Donc maintenant si on reste dans un clone, un seul neuroblaste est marqué, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, d'accord? Donc c'est un petit peu compliqué ici, mais je vais essayer de le résumer. Donc vous avez en bleu, vous avez le clone, vous avez deux clones proches de l'un de l'autre, vous avez la coloration avec TFAP2 qui marque TM1 et TM4, et TM2 et TM6, et c'est uniquement les notch on, d'accord? Donc en fait, on s'attendrait à trouver cette série ici, MA1, TM1, TM4, TM2, TM6, etc. Okay? Or, ce n'est pas du tout ce qu'on trouve. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que dans chaque clone, on obtient non pas deux cellules TM1 et TM4, mais une seule cellule, quelquefois TM1, des fois TM4. Et pareil, en haut, vous avez TM2 ou TM6. En fait, c'est un petit peu au hasard, dans la mesure où d'autres clones vont avoir, par exemple ici, les deux cellules TM1 et TM4 sont présentes, mais on n'a aucun TM2, TM6. Celui-là, il a un... Donc, si vous voulez, on a une sorte d'expression stochastique, comme quoi certains neurones s'expriment dans certains clones, mais pas tous. Donc, ça veut dire, en fait, ça représente le fait que, comme je vous le disais, le cycle cellulaire n'est pas synchronisé à la progression des facteurs de transcription. Et en conséquence de cela, ce que vous avez, c'est que certaines des fenêtres temporelles vont être absentes et donc ne vont pas donner aux neurones. Donc en fait, ici, vous voyez donc la stoichiométrie des TM1 et TM4, et c'est en fait à la moitié de ce qu'on devrait avoir. Parce qu'on devrait en avoir un TM1, un TM4. Ici, on a uniquement un TM1 et pas de TM4, un TM4 et pas de TM1. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en fait, ça correspond exactement à ce qu'on voit, qu'il y a 2000 neuroblastes, uniquement 800 de ces neurones qui sont produits. Donc, l'interprétation, c'est la chose suivante. Ça, c'est à quoi s'attendrait si tous les neurones et neuroblastes toutes les fenêtres temporelles étaient présentes. En fait, on s'apercevait qu'en fonction des neuroblastes, certains expriment vont éviter cette fenêtre temporelle, celui-là va exprimer cette fenêtre temporelle, celui-là va éviter les deux fenêtres temporelles, etc., etc. Donc à la fin, même si vous mettez ça tout ensemble, ce que vous apercevrez, c'est qu'en fait, le nombre de neurones est correct à la fin, mais par un grand nombre de neuroblastes, plus grand nombre, qui va, pour une raison que je ne comprends pas exactement, être donc stochastique, donc introduire cette notion un petit peu de variabilité qui pourrait avoir une implication évolutive que j'avoue ne pas exactement comprendre pourquoi. D'accord? Donc il semble qu'en fait ici, on arrive à restaurer malgré tout la composition exacte du type de neurone on doit en produire 800 de chacun de ceux-là, d'accord ? Et on arrive à le faire de façon stochastique, en simplement désynchronisant le cycle cellulaire. Donc ça veut dire qu'en fait, le cycle cellulaire, et on sait que c'est vrai, en fait, commence dans les neuroblastes, mais il commence à des moments différents. Donc il est d'abord de façon relativement variable d'un neuroblaste à un autre, mais aussi il commence à des niveaux différents. Si vous voulez, donc on peut arriver à avoir une certaine variabilité dans le type de clone. Donc si vous divisez ici, vous n'aurez pas, à la fin de cette fenêtre temporelle, vous n'aurez pas le temps de diviser dans cette fenêtre temporelle, vous divisez dans cette fenêtre temporelle. Ok, donc ça simplement, ça donne une autre idée, donc ça introduit une notion de stochasticité dans le développement qui est intéressante et qui va, vous le verrez, peut-être plus significative encore quand on va parler des vertébrés. Maintenant, une autre chose qu'on a remarqué, c'est qu'il y a d'autres neurones, par exemple ces neurones DM8, okay, qui sont en rose ici, qui sont uniquement produites par une petite partie, donc c'est le croissant, d'accord ? Donc comme je vous le disais tout à l'heure, TM1 est produit par... Oups. Parce qu'il est parti. TM1 est produit par tous les neuroblastes, d'accord, de tout le croissant, quel que soit leur espace, spécification spatiale. Mais par contre, et il y en a donc 800 qui sont produits. Par contre, DM8, il est simplement produit par une petite région du croissant du neuroépithélium. Il est sur mon écran. Donc, par contre, il n'est pas produit par tous ces neuroblastes qui sont ici. Et pourtant, on arrive malgré tout à en avoir 800. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir 800 neuroblastes alors qu'en fait, ils viennent d'un petit domaine du neuroépithélium, alors que celui-là, on arrive à en produire 800, mais par tout le neuroépithélium? Et en fait, la réponse est pratiquement là sous vos yeux déjà, parce que ce que vous voyez, c'est qu'en fait, l'épaisseur des neurones DM8 qui sont produits dans ces régions est en fait beaucoup plus large. Donc, ça veut dire qu'en fait, la chance, la fréquence par laquelle une division cellulaire touche ces neurones est en fait plus élevée qu'elle ne touche ces neurones-là. Et en fait, simplement l'interprétation, c'est que la fenêtre temporelle qui donne lieu au neurone DM8 est en fait beaucoup plus longue. Donc étant beaucoup plus longue, la raison, le facteur de transcription doit s'accumuler plus lentement. Et donc, puisqu'elle est beaucoup plus longue, donc en fait, la chance de trouver un cycle cellulaire dans cette système-là est beaucoup plus élevée. Donc en fait, la fenêtre DM8 va être produite par exemple deux fois dans ce neuroblast, deux fois dans celui-là, une fois dans celui-là. Donc en fait, la fréquence de toucher ça va être en fait beaucoup plus grande. Donc en fait, tu dois un petit peu corriger ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est que d'une part, il n'y a pas 800 neuroblastes, il y en a beaucoup plus. Ces neuroblastes dont tous allaient sous la même série de facteurs transcriptionnels temporels, tous les mêmes, et stochrométrie va être régulée par deux choses. Une part, le nombre de neuroblastes qui vont donner lieu à ça le long de l'axe dorso-ventral, donc en fonction du domaine dans lequel ils sont exprimés, mais aussi la durée de leur fenêtre temporelle. D'accord ? Si la fenêtre temporelle est plus longue, il y aura beaucoup plus de chances d'avoir un cycle cellulaire qui va toucher ce neuroblaste et va pouvoir donner naissance à des neurones comme des neurones de M8. Donc en fait, vous voyez ici, c'est un exemple que je ne vous raconte pas des histoires, c'est qu'en fait ici, vous voyez que vous êtes dans un clone, vous avez deux cellules DM8 qui sont en fait produites d'un seul clone, alors qu'en fait, il n'y a qu'une seule fenêtre temporelle qui est donnée lieu à ça. Okay, donc en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que donc, si vous avez ce à quoi on s'attend, si toutes les fenêtres temporelles étaient exprimées, vous auriez cet emploi, mais en fait, ce que vous avez, c'est que vous avez une distribution stochastique où certaines des fenêtres temporelles sont absentes, ici ou là, et donc c'est certainement un sous-ensemble des neurones produites. Par contre, DM8, qui est dans une grande fenêtre très longue, est produit beaucoup plus fréquemment, ce qui lui permet d'avoir un nombre de neurones élevé en dépit du fait qu'il est produit par un nombre limité de neuroblastes. Okay ? Bon. Donc ça, c'est à ce à quoi on arrive maintenant. Donc il y a une contribution stochastique qui existe, qui à la fin n'a pas l'air de très importante, dans la mesure en fait, elle arrive toujours malgré tout à donner la stochiométrie correcte, puisqu'en fait le maximum de neurones qui est produit est de l'ordre de 800. En fait, il y a une petite correction qui se fait un peu plus tard par une mort cellulaire, où en fait si vous avez deux neurones qui innervent la même colonne, un des deux va mourir. Donc ça, on a pu mettre ça en évidence. Donc il y a une correction, mais ce n'est pas très important. C'est l'autre 10 à 20% uniquement. D'accord ? Ok. Autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'en fait, je vous ai dit, les fenêtres temporelles, qui sont des choses très discrètes, Or, en fait, comme je vous le disais, A activate B, B activate C, C activate D, et D réprime C, c'est qu'en fait, c'est des transitions qui vont être des transitions assez floues. Et donc, en fait, la question, c'est que s'il y a une division cellulaire qui arrive juste entre les deux ici, est-ce qu'il va choisir la fenêtre de gauche ou la fenêtre de droite? C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à résoudre, en fait. On pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'identité de ce neurone qui va être né juste entre deux fenêtres va être une identité un peu ambiguë. Et en fait, les facteurs de transcription qui marquent les neurones, pas les neuroplastes, les neurones, vont avoir un effet de répression croisée, et qu'en fait, l'un va gagner. Donc, une sorte d'effet binaire qui va en fait donner qu'on va d'un côté ou de l'autre. Donc, en fait, même si c'est un peu flou, d'un côté, ils vont choisir à droite ou ils vont choisir à gauche. OK. Donc, maintenant, je veux revenir à la notion de cette notion d'arbre généalogique, en fait, de comment est-ce que le cycle cellulaire et l'hérédité ou le généalogique d'un neurone reflète en fait et réfléchit dans son histoire de développement. Donc en fait, chaque neurone provient d'un lignée cellulaire, et donc il faut essayer de comprendre un peu comment ces lignées cellulaires peuvent arriver à donner ces types de neurones. Okay. Donc en fait, ça c'est une image classique d'une cellule souche qui va se diviser, et par exemple ce serait l'exemple du lignage myéloïde chez les vertébrés. Donc vous pouvez donner toutes sortes de neurones, des globules rouges, des globules bruns, etc., en fonction de cette diversification qui est en fait souvent due non pas tellement au temps, mais au fait à l'influence de facteurs externes qui vont donc changer le destin de cette cellule par rapport à cette cellule-là et qui va être transmis à ses hérédités. D'accord ? Donc en fait, les scientifiques ont été quand même assez, depuis longtemps, intéressés à essayer de comprendre comment le lignage cellulaire peut arriver à influencer le développement. Et bien sûr, pour comprendre cela, la chose la seule chose possible il y a quelque temps, c'est de regarder en microscopie, de regarder une cellule souche, de regarder se diviser vivante, et de voir un petit peu à quoi elle va donner, okay, Dieu. Donc la microscopie est assez importante. Ensuite, on a essayé d'avoir des virus qui vont infecter de façon très infréquente des cellules, d'arriver à tracer le lignage de ces virus, même si souvent ils sont éteints au cours du lignage. On a aussi des techniques pour marquer les cellules de façon très diverse pour essayer de les marquer. Deux techniques qui sont beaucoup plus récentes, Markham et MADAM, qui sont des techniques qu'on utilise soit sur la drosophile, soit sur la souris, pour essayer de comprendre le lignée cellulaire de façon précise. Et plus récemment, encore que ce soit pas encore tout à fait au point, utiliser le système CRISPR pour faire des sortes de marquage de lignée d'une cellule qui va être d'accumulation de marques qui vont être persistantes. C'est un système qui ne marche pas forcément très bien jusqu'à présent, mais bon, on y arrive et dans quelques mois ou quelques années, je pense qu'on va pouvoir arriver à cette façon très précise, d'accord ? Donc, au point de vue de l'exemple même de lignage cellulaire, c'est bien sûr le petit vert rond, le C. elegans. Et John Solstad, il y a maintenant 25 ou 30 ans, a réussi à reconstruire, simplement en regardant sous le microscope le développement de C. elegans, il a réussi à reconstruire le lignage complet de ces 1000 ou 900 neurones qui composent le corps de C. elegans. Il a reçu le prix Nobel en 2002. Et donc, ça, c'est vraiment le premier exemple où on peut voir comment on peut reconstruire un lignage et comment comprendre exactement comment un animal peut se développer. Je dois avouer que C. elegans est la même chose que Siona, donc les acidiens, sont des animaux qui sont un peu spéciaux dans la mesure où le lignage cellulaire est vraiment très, très important. Ce qui est un petit peu un inconvénient dans la mesure où ces animaux sont aussi très fixes, ils ne peuvent plus bouger, ils ne peuvent pas évoluer beaucoup dans la mesure où ils sont vraiment contraints par ce lignage cellulaire qui les empêche d'aller trop à l'extérieur. Donc, les vers se ressemblent énormément. OK ? Ok. Bon, plus récemment, on a réussi à faire des marquages dans plusieurs couleurs. Par exemple, c'est ce qu'on appelle le Brainbow, où en fait, c'est simplement un système avec trois cassettes de trois molécules fluorescentes et qui peuvent être enlevées ou rajoutées. Et en fonction des combinaisons de molécules fluorescentes que vous avez, après avoir enlevé une, deux ou trois, vous arrivez à avoir différentes couleurs qu'on appelle un Brainbow, qui permet de marquer de façon très élégante chacun des neurones, et on arrive à les suivre au cours du développement. C'est pas toujours facile parce que c'est quand même un petit peu dense. Et bien sûr, il faut revenir maintenant au problème qui nous intéressait au début. C'est comment, en fait, quel est le mécanisme par lequel ces six couches du cortex des mammifères peut être spécifiées de façon temporelle, où en fait on peut avoir 6, 5, 4, 3, 2, d'accord, où en fait on produit d'abord les couches les plus profondes avant de produire les couches les plus superficielles. D'accord ? Donc, quel est le mécanisme ? Et en fait, il y avait deux idées qui traînaient autour pendant longtemps. En fait, il y avait des gens qui pensaient qu'en fait, il y avait des red glia cells, donc des cellules gliales, qui sont en fait les cellules souches du cerveau, qui étaient uniquement produites à la couche 6, d'autres qui produisent la couche 5, la couche 4, la couche 3. Et au contraire, il y avait un autre groupe de pensée qui disait en fait qu'en fait, il y a un seul type de précurseur de cellules neuronales souches qui produit d'abord 6, ensuite 5, ensuite 4, ensuite 3, ensuite 2. D'accord ? Donc deux systèmes tout à fait différents. Un où il y a une prédétermination, ou en fait qui est plutôt quelque chose de spatial, et l'autre qui est plutôt quelque chose qui est dû au temps, ou alors que comme un peu ce que je vous ai raconté pour le lobe optique, c'est qu'en fait le même précurseur peut donner à des neurones verts, des neurones jaunes, des neurones rouges, des neurones bleus, d'accord. Et donc ces écoles étaient en compétition assez sérieuse, et des grosses disputes, et en fait la solution est venue. Donc c'est un petit le système. Donc d'abord vous avez comme je vous ai raconté pour la drosophile, d'abord des divisions prolifératives, c'est-à-dire qu'en fait le neuroépithélium de la drosophile, vous rappelez, il se divisait avant d'être transformé en neuroblast. Ici aussi, vous avez des divisions prolifératives, donc en fait des divisions symétriques. Et ensuite, à un certain moment, vous allez avoir les glial cells, red glial cells, qui vont commencer à rentrer en neurogénèse et produire les couches 6, couches 5, couches 4, couches 3. Et la question de savoir, est-ce que c'est la même cellule qui fait toutes ces couches ou il y a des cellules différentes ? D'accord ? Donc, c'est là qu'est intervenu le travail de mon collègue Simon Eppenmayer, qui est maintenant à Vienne. Et lorsqu'il était à Stanford chez Li Shunluo, il a développé ce système qu'on appelle MADEM, qui est développé en fait à partir d'un système drosophile qu'on appelle MARCM, qui est en fait un système très malin, où en fait vous avez sur deux chromosomes homologues, vous avez une molécule de GFP qui a été coupée en deux, et une moitié sur un chromosome, l'autre moitié sur l'autre chromosome. Et en contrepartie, vous avez sur l'autre chromosome une moitié de la RFP qui va être sur ce chromosome et l'autre moitié va être ici. Donc, bien sûr, ces deux molécules ne sont pas compatibles l'une avec l'autre. Donc, en fait, vous n'avez rien du tout. Vous n'avez ni rouge ni vert ici. Mais si au cours du développement, vous pouvez induire une recombinaison après la phase ESC, donc lorsque les chromosomes ont dupliqué, donc ça c'est après la phase ESC, donc il y a deux cystochromatides, et là vous avez l'autre chromosome, vous pouvez induire une recombinaison, et ce que vous faire en fait passer par exemple le vert ici et le rouge ici, et auquel cas vous avez un des chromosomes, une des cystochromatides, qui contient une molécule RFP qui a été reconstituée, et l'autre qui a été GFP qui a été reconstituée. À la ségrégation de la mitose, vous voyez donc une cellule qui va devenir rouge et une cellule qui va devenir verte. Donc on sait vraiment en fait que ces deux cellules sont des cellules sœurs, une qui va être verte, une qui va être rouge. D'accord ? Donc ça marche parfaitement bien, c'est un petit peu cher parce qu'il faut avoir beaucoup de souris pour arriver à faire ça de façon très systématique, mais on arrive à avoir des lignes cellulaires très précises où en fait on peut savoir comment une cellule va devenir rouge et sa sœur va devenir verte, et ensuite elles vont certainement diriger, continuer à rester rouge ou continuer à rester verte. Okay ? Donc en fait, si vous faites l'induisez cette recombinaison qu'on peut contrôler par une enzyme qu'on appelle une recombinase qu'on appelle Cre, si vous le faites très tôt au cours du développement, lorsque les cellules sont en train de se diviser de façon symétrique, vous allez avoir en fait toutes les cellules vont être soit rouges, soit vertes. Ici je les ai mis de côtés différents, d'accord ? Et on va en fait donc avoir la moitié de cellules rouges, la moitié de cellules vertes. Mais si vous faites la recombinaison un petit peu plus tard, lorsqu'on est en partie neurogénique, d'accord, si en fait la même, on va avoir donc une recombinaison, on va avoir une cellule qui va être rouge ici et tout le reste va être vert ou vice versa. Ok, peut-être on peut l'illustrer ici. Donc, si vous avez une recombinaison précoce au cours des divisions symétriques, vous allez avoir une division ici, celui-là va devenir, toutes les cellules vont devenir vertes, celles-là vont devenir rouges, c'est une cellule précoce, donc vous avez un clone, deux clones, un rouge et un vert, on savait qu'ils viennent de la même cellule initiale, mais c'est pas, il n'y a pas beaucoup d'informations là, dans la mesure où on sait simplement que ces cellules, elles avaient à un moment donné, donc on voit ici, si vous avez dans le cerveau, vous voyez que vous avez des cellules rouges et des cellules vertes qui sont mélangées après, réparties à 50-50. Par contre, si vous faites la recombinaison un petit peu plus tard, c'est-à-dire au moment où en fait, elle est rentrée en phase neurogénique, vous allez avoir, donc, au cours des divisions asymétriques des radial glia, vous allez avoir une cellule qui va devenir rouge, qui est la cellule terminale, et la cellule glia qui va continuer son développement et va produire différents types de cellules. Et donc, c'est un exemple ici. Vous avez un exemple où en fait, vous avez à peu près 8 cellules qui vont être produites par la même cellule souche. Le problème, c'est le système. Okay. Okay. Donc, en fait, s'il y a des cours de développement durant la phase de division E10, où en fait, qui est le moment précoce, où en fait, il y avait division symétrique, les clones sont en fait 50-50, donc 50% de vert, 50% de rouge. Et lorsque vous progressez au cours de développement, vous apercevez que vous avez de plus en plus, à un moment donné, où vous n'avez plus qu'en fait une cellule verte et tout le reste rouge. Et ici, vous avez une cellule verte, une cellule rouge. Donc, en fait, l'interprétation, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au cours du développement, vous allez avoir ces cellules qui vont se diviser à partir du même précurseur, et vous voyez que ces cellules vont se répartir au cours des couches 6, 5, 4, 3, 2. Ça veut dire qu'ici, au niveau de ces cellules-là, vous avez en fait la même cellule souche va donner lieu à toutes les couches de l'épithéliale. Et donc, on se trouve ici, c'est qu'en fait, vous avez une cellule verte, et ses sœurs vont donner donc à toutes les couches cellulaires. Ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'une seule cellule va donner lieu à toutes les couches cellulaires. D'accord ? Donc ça résout le problème. C'est qu'en fait, on sait maintenant que la manière dont le cortex est formé, simplement, c'est que vous avez une cellule souche qui va donner lieu à toutes les couches cellulaires du cortex. Un petit peu similaire de ce que je vous ai raconté au sujet de la drosophile, le seul problème ici, c'est qu'on ne connaît pas l'identité de ces cellules neuronales. On sait leur identité à la mesure où elles sont dans la couche 6, 5, 4, 3, 2, qui sont des cellules différentes. Mais dans chacune des cellules, des couches cellulaires, il y a de nombreux neurones différents. Donc on ne sait pas exactement quelle est leur identité neuronale, mais on sait simplement que le même précurseur peut donner lieu à différents types de neurones. Donc on dit, c'est simple, on doit avoir exactement la même chose que chez la drosophile, on va avoir un facteur de transcription qui va donner la couche 6, ensuite la cellule souche va donner lieu à un autre facteur de transcription qui va donner lieu à 5, 4, 3, 2. C'est un petit peu possible, mais le seul problème, c'est qu'en fait, les divisions cellulaires chez la souris, sont de l'ordre d'un jour, c'est-à-dire que les cellules ne se divisent qu'un jour. Or, le système dont je vous ai parlé au sujet des facteurs de transcription A, activé B, B, activé C, C, activé D, c'est un système qui va aller beaucoup plus trop rapidement. Il ne va pas attendre un jour pour pouvoir arriver à transformer de A à B ou de B à C. La transcription, ça prend 20 minutes, une demi-heure, une heure, mais pas une journée. Et c'est encore plus critique chez l'homme, où en fait, chaque division cellulaire prend après une semaine. Donc, le système, en pratique, ne semblerait pas pouvoir marcher dans la mesure où les divisions cellulaires sont beaucoup trop lentes et donc les facteurs de transcription ne pourraient pas attendre pour voir s'exprimer. Il est possible, dans le cas du rythme circadien, les facteurs de transcription fonctionnent toutes les 24 heures, mais il y a tout un système de régulation qui permet d'allonger les choses, donc ça ne marcherait pas ici. Donc ici, on sait qu'en fait, le même précurseur peut donner 6, 5, 4, 3, 2, et le temps est important. Mais les scientifiques ont été incapables de trouver quel facteur de transcription pourrait être exprimé dans 6, 5, 4, 3, 2, dans les 6 cellules souches qui donnent lieu à 6 ou à 5 ou à 4. Ils n'ont pas vu une progression, comme je l'ai montré chez la drosophile, des facteurs de transcription temporels. C'est là. Donc, on est un petit peu de retour à la case départ. On sait qu'en fait, le temps est important, mais on ne sait pas comment le temps arrive à être exprimé. Donc, c'est un petit peu décevant. Et on va passer à un autre système, toujours par les mêmes scientifiques, toujours Seemann Hippon-Meyer, toujours avec Madame, et qui va utiliser une autre couche du cerveau qui s'appelle le supraculoculus. C'est en fait la cible des neurones de la rétine qui va projeter dans le cerveau. C'est le premier relais du système visuel dans le cerveau. Et ce relais, en fait, va être impliqué en intégration de tous les systèmes sensoriels pour pouvoir arriver à comprendre exactement comment se font, quelles décisions prendre pour la souris. Okay. Donc, ce supraculiculus contient un grand nombre de neurones différents, et on fait un single cell sequencing, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 16 neurones type neuronaux là-dedans. Okay. Donc, vous avez ici, et vous avez 10 neurones inhibiteurs et 6 neurones excitateurs. Okay. C'est un peu typique, l'inhibition est toujours très importante. D'accord. Donc, on veut produire 16 types neuronaux. Donc, on va faire la même expérience pour essayer de comprendre un peu comment ces 16 types de neurones sont produits par des cellules souches qui sont dans le supraculiculus. OK. Donc, on va faire le même type d'expérience, c'est toujours le MADAME. Okay. Et on pourra, un petit peu comme dans le cas du cortex, que si vous le faites très tôt, vous avez des clones qui sont 50-50. C'est des clones prolifératifs quand les progéniteurs se divisent de façon symétrique, donc on a le même nombre de cellules rouges et de cellules vertes, d'accord. Et quand on attend un peu plus longtemps, on s'aperçoit qu'on a des clones qui sont beaucoup plus asymétriques, on a une cellule rouge et 8 cellules vertes. Et si on attend encore plus longtemps, la dernière division, vous avez une cellule rouge et une cellule verte, d'accord. Okay. Donc, il semble qu'un système qui soit tout à fait similaire à ce qu'on a trouvé chez le cortex. Mais l'inconvénient ici, c'est qu'en fait, il n'y a pas de couche cellulaire dans le supraculiculus, ce qui fait que c'est très difficile d'identifier même le type de neurone. On ne sait pas si c'est 5, 4, 3, 2. Donc en fait, ce que les scientifiques ont dit, on va essayer de faire ça de façon plus difficile et de façon plus précise, c'est qu'en fait, on va essayer de prendre chacune de ces cellules rouges, cellules vertes, et on va les séquencer individuellement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail que c'est, parce qu'en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont arriver avec une pipette et prendre une cellule rouge, une cellule verte, aspirer le contenu de cette cellule et le séquencer individuellement. Qu'est-ce qu'on appelle donc le séquencer individuellement. Donc en fait, ils arrivent à avoir dans le cerveau, dans le supraculus, ils le dissectent, il y a un seul clone par animal, ils vont prendre chacune des cellules et les séquencer pour pas avoir l'identité précise. Comment est-ce qu'on peut faire? Simplement, comme ils connaissent le transcriptome de ces cellules, qui n'est pas très précis, mais ils arrivent, si vous voulez, à le mettre sur la cartographie de tous les neurones des 16 types cellulaires qu'on a découverts par single cell sequencing, et donc ils savent exactement l'identité de chacune des cellules qu'ils ont aspirées, et donc ils savent exactement quelle est leur identité moléculaire, et la chose qu'ils découvrent, c'est qu'en fait, deux choses. D'une part, c'est qu'il y a 6 excitateurs et 10 inhibiteurs, et qu'en fait, les clones contiennent à la fois des cellules excitatrices et des cellules inhibitrices. Et en fait, si vous voyez le rapport, les clones sont un petit peu bizarres, dans la mesure où certains ont beaucoup d'inhibiteurs et peu ou pas du tout d'excitateurs, et sont la plupart, en fait, un mélange entre les deux. Il n'y a pas de loi précise. Un peu surprenant, dans la mesure où pourquoi, en fait, on a cette... Si vous vous rappelez, vous savez ce qui se passe chez le cerveau au niveau du cortex. Au niveau du cortex, les cellules excitatrices sont en fait produites localement par le cortex, que je vous ai décrit. Tous les neurones des couches 6, 5, 4, 3, 2 sont produites par dans le cortex localement, d'accord ? Mais les cellules inhibitrices, en fait, proviennent des éminences ganglionnaires qui sont d'une partie ventrale du cerveau. Elles doivent migrer de très longues distances pour aller occuper le cortex. Donc, les cellules excitatrices et les cellules inhibitrices sont vraiment complètement différents au niveau de leur évolution. Elles ont des fonctions tout à fait différentes. Ici, un système complètement différent où, en fait, inhibiteur, excitateur, les deux sont mélangés tout dans le même sens. Et sans règles apparentes qu'on puisse commencer à comprendre. Donc, c'est un petit peu difficile de comprendre et d'interpréter ces cellules-là. Okay. Les choses deviennent encore plus compliquées si on regarde l'identité des neurones. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'une possibilité, c'est qu'en fait, ce soit un petit peu comme ce que je vous ai décrit chez la drosophile, dans le lobe optique. Il est possible qu'en fait, vous avez des excitateurs et des inhibiteurs qui sont les produits de notch on, notch off, d'accord ? Et que donc, on pourrait avoir 50-50 d'excitateurs et inhibiteurs, mais ce n'est pas ce qu'on voit non plus. Et en plus, si on regarde, vous savez, si je vous ai montré ces deux clones rouges, il y a une cellule rouge, une cellule verte, qui sont certainement la dernière division cellulaire, c'est très rare qu'on ait un excitateur et un inhibiteur. Il n'y a pas de loi non plus. Donc, en fait, pas de loi précise pour expliquer comment ces neurones peut-être produisent pour donner les 16 types cellulaires à la fois excitateurs et inhibiteurs. Okay, les choses deviennent encore plus compliquées lorsqu'en fait on regarde à la composition, à l'identité de chacun de ces clones. Et là aussi les choses sont complètement incompréhensibles dans la mesure où chaque clone, qui contient après 8 cellules, chaque clone contient un arrangement un petit peu au hasard de tous les 16 types cellulaires. Comment est-ce possible? Comment est-ce que c'est possible? Donc, vraiment tout à fait stochastique. En fait, donc vous avez 16 types cellulaires et certains contiennent 1, 3, 5, 8, l'autre contient 2, 3, 6, 9. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et certains sont excitateurs, sont inhibiteurs. Donc, c'est un petit peu le papier que Simon a publié et la conclusion, c'est on ne comprend pas. Or, je veux dire, il y a quand même les 16 neurones sont tous produits par des progéniteurs, mais les neurones sont produits au hasard. Et comment est-ce que le transcriptome, le génome, pourrait être encodé pour ce genre de choses un peu compliquées qui n'ont pas l'air d'être tout à fait logiques? Donc, ça va être mon interprétation est la suivante, c'est la chose suivante. Donc, en fait, comment expliquer la variabilité de ces clones? Mon interprétation, en fait, c'est d'utiliser ce que je vous ai raconté au sujet du lobe optique, où, en fait, vous avez le potentiel pour chacune des cellules souches, de produire un neurone de chacune de ces fenêtres temporelles. Ce qu'on peut s'imaginer, c'est qu'en fait, tous ces neurones ici proviennent d'un précurseur qui va aller dans 16 fenêtres temporelles, D'accord ? 16 fenêtres temporelles, donc chacun peut aller dans les 16 temporelles. Mais certains, pour les raisons que je vous ai expliquées précédemment, dans la mesure où le cycle cellulaire est beaucoup plus lent, certains vont produire les neurones 1, 5, 8, 10 et 15, et d'autres vont produire les autres ou ceux-là. Donc ce serait l'interprétation du système, c'est qu'en fait la stochasticité qu'on voit, cette incompréhensibilité de ces clones qui sont vraiment très variables, peut être relativement expliquée par le fait qu'en fait vous allez avoir une grande, longue série de fenêtres temporelles qui ont le potentiel de donner lieu à de nombreux types cellulaires, mais que uniquement un petit ensemble de ceux-là sont utilisés. En fait, ça pourrait expliquer aussi pourquoi on pourra augmenter la diversification cellulaire dans la mesure où en fait le nombre de fenêtres temporelles chez ces précurseurs va être relativement importante et donc va pouvoir te permettre d'avoir de grands nombres de types cellulaires plus importants encore que chez le cas de la drosophile. Et en fait, cette interprétation est en fait celle qui a été amenée par Konisepko. Konisepko, c'est une grande dame de la rétine de souris qui en fait a analysé au cours des dernières années le nombre de types cellulaires qu'il y a dans la rétine. Et même si vous savez qu'il y a 6 types cellulaires entre rétine ganglion cell, bipolaire, etc., en fait, chacune des sous-types des types cellulaires est en fait peut être divisée en un grand nombre de sous-types. Par exemple, les cellules bipolaires peuvent être divisées entre 40 sous-types, d'accord ? Or, il semble que de la même manière, peut-être moins précisément que ce qu'on a vu chez le supraoculiculus, quand on fait des clones dans la rétine, on ne trouve aucune logique à la production de ces différents types cellulaires. Donc, elles sont produites de façon de stoichiométrie différente, mais il n'y a pas de logique qu'on arrive à comprendre pour ça. Et l'interprétation, en fait, ce serait que, exactement comme je vous l'ai produit, vous avez un grand nombre de fenêtres temporelles chez les précurseurs rétiniens, et qu'en fait, chacun de ces précurseurs va aller sous un grand nombre de ces rétines, et que chacun des clones va être en fait un sous-ensemble de ça, et va donner des clones qui vont être tous différents les uns des autres. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que on peut arriver à réconcilier ce qui se passe chez la drosophile et ce qui se passe chez les vertébrés, chez les mammifères, qu'en fait, les mammifères ont une composante déterministe, mais qu'en fait, de manière à pouvoir arriver à augmenter le nombre de neurones, de types neuronaux qui sont produits, on va introduire de façon plus marquée que chez la drosophile des facteurs stochastiques et d'arriver donc à avoir un système qui est en fait apparemment très flexible et très flou en surface, mais quand on regarde en fait, qui ressemble énormément à ce qui se passe au niveau du développement du système nerveux de la drosophile. Donc, le problème, c'est que comment on arrive à montrer ça? Et en fait, il y a pas mal de gens qui s'intéressent à cela, en particulier James Briscoe pour la moelle épinière et Songhai Shi au sujet du cortex, mais ils n'arrivent pas à trouver en fait ces fenêtres temporelles. C'est pour des questions purement techniques, c'est qu'en fait, contrairement à ce que l'on voit chez la drosophile, où en fait, à un moment donné, vous avez toutes les fenêtres temporelles qui sont présentes, dans le système que je vous ai décrit, en fait, les fenêtres temporelles bougent avec le temps. Et si vous avez 50 fenêtres temporelles, ça va être très difficile de capturer la bonne fenêtre temporelle au moment. Donc, en fait, il semble que les mammifères aient résolu leur système simplement en gardant le système déterministe. Le génome, vraiment, les réseaux transcriptionnels vont arriver à produire ces fenêtres temporelles, et ensuite, on va choisir quel type de neurones on va produire à différents types cellulaires. Et ça va aussi réconcilier avec le fait que le cycle cellulaire est beaucoup plus lent chez les vertébrés que chez la drosophile, d'accord ? Ok, donc je vais arrêter là, et simplement vous dire que la semaine prochaine, on va aller un petit peu plus en détail à un système qui est beaucoup plus extrême, en fait, au niveau de la stochasticité, où en fait, là, on va choisir une décision, en fait, mettre une décision stochastique qui va être un choix non pas de 10 ou 20 ou 50, mais en fait de milliers de gènes. Je fais référence en fait aux gènes des récepteurs olfactifs, où ils peuvent être plusieurs 1200 chez la souris, 2000 chez l'éléphant, et comment en fait chacun des récepteurs olfactifs du nez va n'exprimer qu'un seul de ces 2000 gènes de façon stochastique. Un seul. À l'exception des 2000 ou en fait 4000, parce qu'il y a deux allèles de chacun. Donc je vous explique comment en fait on peut arriver à expliquer comment on peut faire un choix extrême simplement avec un système où en fait on choisit au hasard et on réprime tout le reste. D'accord ? Donc si vous êtes intéressé, vous verrez que c'est un système qui est peut-être beaucoup plus propre et beaucoup plus facile à comprendre que ce que je vous explique aujourd'hui, mais qui va permettre en fait de contrôler vraiment de façon très précise comment on peut avoir choisir one out of many, okay, un gène parmi de très nombreux gènes. Okay. Okay. Donc, les gens qui ont fait ce travail, donc c'est Nikos qui est dans la salle, je crois, ici, et ses collaborateurs, et Neshet, qui est, et Raghu, qui sont en fait des étudiants qui étaient dans mon laboratoire. Félix est ensuite est rentré maintenant en France et Raghu est encore dans le laboratoire et celui qui est mon gars stochastique qui se... et si je vous raconterai la prochaine fois, ce sera le travail en tout de qui se fait chez la fourmi où on va essayer de comprendre un petit peu comment la fourmi peut exprimer ces très nombreux facteurs transcriptionnels dans le contexte de leur système olfactif et on va essayer de mettre ça en rapport avec ce qui se passe chez l'olfaction chez la souris, d'accord. Et ça, c'est les gens qui sont partis du laboratoire les dernières années, y compris où est-ce qu'il est, Nikos. Ah ben il est là-haut, d'accord. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.